VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 29 août 2018. Des journalistes ont été battus par des policiers à Bujumbura alors qu'ils effectuaient un reportage. La chancelière allemande Angela Merkel est en visite de 2 jours à Dakar. Autre tournée, celle de la première ministre britannique Theresa May qui a rencontré à Abuja le président Bouhari. Le PDCI demande un report des élections locales en Côte d'Ivoire. Visite surprise du chef de la diplomatie iranienne à Ankara. Et Donald Trump a annoncé le départ prochain de l'avocat de la Maison Blanche, Don McGahn. La Minute Éco, les sports, ce sera juste après le journal. Angela Merkel est à Dakar. La chancelière allemande est en visite de 2 jours dans la capitale sénégalaise. Elle est accompagnée d'une délégation d'opérateurs économiques. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Angela Merkel change de fusil d'épaule dans sa relation avec l'Afrique. La chef de l'exécutif allemand qui a atterri en milieu d'après-midi à Dakar entend renforcer les liens économiques et tenter de limiter les migrations clandestines vers l'Europe. Au programme, une rencontre avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall, la société civile et les opérateurs économiques. L'Afrique a beaucoup de conflits et certaines personnes fuient des conditions très très difficiles, a déclaré Madame Merkel dans un discours publié sur le site de la chancellerie allemande. Dakar est une première étape dans l'offensive économique de Bonn en terre africaine. Après le Sénégal, Angela Merkel va mettre le cap sur le Ghana et le Nigeria. Le Sénégal, le Ghana et le Nigeria ont un rôle important à jouer dans la recherche de solutions aux conflits dans la région, a fait savoir Madame Merkel.
La première ministre britannique Theresa May a signé 2 accords avec le Nigeria lors de sa tournée en Afrique. Elle a rencontré le président Muhammadu Buhari à Abuja avant de signer ses accords d'entente sécuritaire et commerciale, a indiqué le ministre nigérian des Affaires étrangères. Elle a commencé sa tournée par l'Afrique du Sud et doit se rendre à Nairobi. En Côte d'Ivoire, le PDCI demande le report des élections locales et régionales prévues le 13 octobre, alors que le dépôt des listes doit se terminer ce soir. Eddy Issango nous en dit plus.
Le PDCI suggère un report des élections locales et régionales jusqu'à la fin 2018. Il estime qu'il faut tenir compte des derniers développements politiques, notamment l'amnistie et la libération par le président Alassane Ouattara des nombreux responsables du Front populaire ivoirien, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Le FPI avait jusqu'ici boycotté la plupart des scrutins, demandant la libération des prisonniers politiques. Le seul problème, c'est que les listes électorales doivent être déposées ce soir au plus tard. Le refus du PDCI d'éjoindre les partis unifiés souhaités par le président Alassane Ouattara a provoqué l'éclatement de la coalition au pouvoir depuis 2010, entraînant des fortes tensions entre les 2 anciens alliés.
Par ailleurs, le secrétaire exécutif du PDCI a accusé son ancien allié, le RHDP, de tentative de débauchage. Plusieurs candidats figurant à la fois sur les listes du PDCI et du RHDP, dont des ministres. L'Assemblée nationale et le Sénat du Burundi ont approuvé une nouvelle commission électorale nationale indépendante. La liste présentée par le gouvernement a été approuvée par 90 voix pour et une abstention en l'absence des 25 députés de l'opposition qui ont boycotté la séance. Des journalistes ont été battus par des policiers à Bujumbura alors qu'ils effectuaient un reportage. L'association des femmes journalistes et RSF demande au gouvernement de mener une enquête. Le point à Bujumbura avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Lundi avant midi dans le quartier 10 de la zone de Ngagara vers le nord de Bujumbura, Alain Majesté Barenga, Alain Niyomucha Manza et Bella Gloria Kimana effectuaient un reportage sur le conflit foncier dans cette zone existant entre les habitants et l'administration. Alors qu'ils faisaient la collecte des sons et témoignages, des policiers les ont d'abord séquestrés avant de les tabasser, les empêchant ainsi de faire leur travail. Leur véhicule a été endommagé. Alain Majesté Barenga a reçu des coups très violents au dos. Il a été transporté à l'hôpital. Président du Conseil national de la communication, CNC en sigle, Nestor Mukunzi, a condamné un tel comportement des policiers. Agnès Mindorera, président de l'Association des femmes journalistes, affirme que ces journalistes ont été battus alors qu'ils faisaient leur travail au quotidien. Elle appelle à l'instauration d'un climat de confiance entre le pouvoir et les médias. Reporters sans frontières demande que les autorités mènent une enquête approfondie pour que les coupables soient punis conformément à la loi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le département d'État américain conseille aux citoyens américains de reconsidérer leur voyage au Burundi, précisant que les points de contrôle de la police et de l'armée sont courants et peuvent restreindre la liberté de mouvement. Les provinces de Cibitoke et Bubanza sont exposées à des raids transfrontaliers menés par des groupes armés venant de l'est de la RDC, indique le département d'État. La rentrée scolaire a été maintenue pour lundi dans l'est de la RDC touchée par le virus Ebola qui a fait 75 morts, a indiqué le ministère de la Santé. Un comité d'experts a conclu qu'il était préférable de maintenir la rentrée des classes au 3 septembre, affirme le ministère, en réponse aux inquiétudes de la société civile qui demandait un report dans les zones touchées de la province du Nord Kivu. Des dirigeants de l'opposition en exil de Guinée équatoriale ont appelé à Madrid la communauté internationale à les aider à regagner leur pays pour y défendre une transition démocratique. « Nous avons besoin d'aide économique et de protection », a déclaré lors d'une conférence de presse Sovero Motonsa, dirigeant du Parti du Progrès. La vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, arrêtée mardi pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a obtenu une suspension de l'audience au cours de laquelle elle devait être formellement inculpée. Philomena Mwilu faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017, une décision qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle boycottée par l'opposition et remportée par M. Kenyatta. En Égypte, 20 djihadistes présumés ont été tués dans le Sinaï et dans l'ouest du pays lors d'opérations menées par les forces de sécurité contre le groupe État islamique, a annoncé l'armée. Environ 300 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement de l'opération Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Et en Tunisie, des heurts entre habitants et forces de l'ordre se sont produits pour la deuxième nuit consécutive à Ben Gherdan, près du poste frontière avec la Libye, fermé depuis plus d'un mois, ont annoncé les autorités.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés iraniens ont signifié leur profonde insatisfaction au président Hassan Rouhani, convoqué de manière inédite devant le Parlement pour s'expliquer sur la détérioration de la situation économique. Et Kia Badou nous en dit plus.
C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a 5 ans que le président Hassan Rouhani est convoqué au Parlement. L'audition hier mardi a duré près de 2 heures après un vote de défiance qui a permis de limoger le ministre du Travail le 8 août et celui de l'Économie dimanche. Deux autres ministres sont convoqués par les députés iraniens. Le président n'a pas convaincu les députés dans 4 des 5 dossiers étudiés, notamment sur sa politique en matière de chute de la devise, d'inflation et de chômage. Selon les règles du Parlement, ces questions seront transmises pour la première fois dans l'histoire de la République islamique à la justice pour avis. Le renvoi du président Hassan Rouhani est exclu pour le moment par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est en déplacement surprise à Ankara pour une rencontre avec le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. Selon la présidence turque, ce déplacement survient alors que la tension monte en Syrie, où le régime, soutenu par Téhéran et Moscou, veut lancer une offensive sur Idlib, ultime grand bastion des rebelles appuyé par Ankara. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre les risques croissants d'une catastrophe humanitaire en cas d'opération militaire à grande échelle dans la province d'Idlib en Syrie. Il appelle urgemment toutes les parties à faire preuve de retenue et à se focaliser sur la protection des civils. Israël a réitéré ses menaces d'attaque contre des cibles militaires iraniennes en Syrie ainsi que des positions de l'armée de Bachar al-Assad après l'annonce d'un accord de coopération militaire entre Damas et Téhéran. L'Iran fournit un soutien politique, financier et militaire de premier plan au régime en Syrie dans la guerre qui ravage ce pays depuis plus de 7 ans. Le CICR a appelé le gouvernement colombien à donner la priorité à la recherche de plus de 80 000 personnes disparues pendant le conflit armé. Il a salué la création de l'unité de recherche des personnes disparues, prévue dans l'accord de paix de 2016 avec les FARC, soulignant toutefois que cette unité n'était toujours pas opérationnelle. Et Donald Trump a annoncé le départ prochain de l'avocat de la Maison Blanche, Don McGahn. Il quittera son poste à l'automne, peu après la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, a écrit M. Trump dans un tweet, ajoutant avoir apprécié son travail. Cette annonce intervient après des révélations du New York Times, selon lesquelles Don McGahn a largement coopéré avec l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le président togolais Fornia Simbe ouvre la porte à toutes les entreprises chinoises prêtes à délocaliser. Il veut capitaliser sur les dizaines de millions d'emplois en Chine. Le MES est déjà doté d'un plan national de développement. C'est une feuille de route ambitieuse qui accorde au secteur privé une grande considération et prévoit de transformer le Togo en un hub logistique, un centre régional d'affaires et financier de première classe. Accord de diversification économique et commerciale entre le Ghana et le Royaume-Uni. Il s'agit principalement de créer des emplois et de promouvoir le programme de transformation économique du Ghana. Londres va injecter 20 millions de livres sterling pour améliorer l'environnement des affaires, soutenir la promotion des opportunités d'investissement étrangers, aider à la diversification d'activités pour l'exportation et développer les infrastructures. La mise en œuvre de ce programme permettra de créer environ 15 000 emplois pour les Ghanéens. L'Égypte va investir dans la province du Sinaï plus de 15 milliards de dollars jusqu'en 2022. Le gouvernement vise à renforcer le développement des provinces quelque peu délaissées. Des projets incluront des fermes piscicoles, un lac naturel, une zone industrielle, 10 nouvelles routes, 15 hôpitaux, la mise à niveau de 53 écoles et universités et de 54 projets d'approvisionnement en eau. La Haute-Égypte bénéficiera aussi de ce programme de développement.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Rayon Sport s'invite en quart de finale de la Coupe de la CAF.
Et oui, c'est une grosse sensation. Troisième du groupe D au coup d'envoi, les Rwandais ont joué leur carte à fond en s'imposant 1-0 à domicile contre Young Africans, déjà éliminé lors de la sixième et dernière journée. Ce succès couplé à la défaite de Gor Mahia face à l'USM Alger 2-1 dans l'autre match de la poule permet à Rayon Sport de doubler les Kenyans d'un point pour se qualifier derrière l'USM Alger.
Pour les transferts, Papa Alioune Ndiaye rejoint Galatasaray.
Pape Alioune Ndiaye a finalement quitté Stoke City. Âgé de 27 ans, l'ancien pensionnaire de Jambas ne veut pas accompagner son équipe reléguée en deuxième division anglaise à l'issue de la saison 2017-2018. Le milieu de terrain international sénégalais a signé pour un prêt d'une saison dans le club stambouliote.
Lyon laisse partir Mariano au Real Madrid.
Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a confirmé que son club va laisser partir l'attaquant Mariano Diaz au Real Madrid contre 33 millions d'euros. Il a ajouté avoir en ligne de mire Moussa Dembélé du Celtic Glasgow et Nicolas Pepe de Lille pour le remplacer. L'avant-centre hispano-dominicain de 25 ans, auteur de 18 buts en Ligue 1 la saison passée, n'apparaît pas sur la photo officielle de l'OL. De son côté, le défenseur central Mapunyangam Biwa, acquis pour 10 millions d'euros auprès de l'AS Rome en 2015, ne fait plus partie des plans mais reste au club pour l'instant.
Enfin, des adieux émouvants de Bastian au Bayern Munich.
Bastian Schweinsteiger marque un but, a crié la foule de l'Allianz Arena pour son jubilé entre le Bayern Munich et sa nouvelle équipe de Chicago Fire. Et l'ancien capitaine allemand marqua le quatrième but des Bavarois pour le 4-0. Je suis l'un de vous et je le serai toujours, a lancé Schweinsteiger. Comme le veut la tradition, il avait disputé la première période sous le maillot de Chicago avant de revêtir le fameux maillot rouge des Bavarois. Avant son jubilé, il a reçu l'ordre du mérite bavarois et a été intronisé 18e membre du Panthéon de la gloire du Bayern au musée du club aux côtés de légendes comme Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Lothar Matthäus et Philippe Lahm.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. L'Allemagne a remis à la Namibie 19 crânes pris par les forces coloniales allemandes il y a plus d'un siècle. Ce sont des ossements de membres des tribus Herero et Nama exterminés par les colons. Ces restes étaient en possession d'universités et de musées. La cérémonie a eu lieu à Berlin pendant que la chancelière Angela Merkel entame sa visite au Sénégal. La secrétaire d'État aux affaires étrangères Michelle Munterfering a demandé pardon pour ce passé colonial, des excuses jugées insuffisantes par les représentants des deux ethnies. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Athanase Karayenda, ex-fonctionnaire de l'UNESCO, actuellement à Kigali pour des recherches sur les génocides en Afrique.
Il faut peut-être quand même saluer le geste de l'Allemagne, même s'il est tardif, même s'il est tronqué, parce que l'événement mériterait la présence de la chancelière d'Allemagne. C'est une histoire malheureusement classique. Les puissances coloniales, l'Allemagne, comme la France, comme la Belgique, comme la Grande-Bretagne, sont arrivées vers la fin du 19e siècle en Afrique. Beaucoup de colonialistes de cette époque étaient imbus de la théorie de l'évolution des races.
De la supériorité de la race blanche, pour parler plus clair.
Absolument. Et tout ça, c'était une déviation, d'ailleurs, de la théorie de l'évolution des espèces. Quand ils sont arrivés dans nos pays, beaucoup de ces grandes puissances ont voulu vérifier, effectivement, que la race blanche était supérieure. Évidemment, il ne fallait pas que les Africains manifestent quelque résistance que ce soit à l'égard de l'oppression coloniale de cette époque. Et c'est ce qui est arrivé avec les Herero et les Nama qui se sont révoltés contre la puissance allemande et ils ont payé le prix, c'est-à-dire le prix de l'extermination. 1904.
Et les camps de concentration ont existé en Namibie avant les camps nazis où les Juifs ont été exterminés.
Non seulement les camps d'extermination, mais aussi les tests médicaux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des crânes de Herero et de Nama en Allemagne, parce que justement à l'époque, ils ont transporté ces cadavres, ces crânes, pour les mesurer, pour en faire des mensurations. Mais il faut savoir aussi que les mensurations des crânes ont été faites aussi en Sicile, pour prouver que les Siciliens sont une race moins élevé que la race blanche du Nord. On a retrouvé aussi des travaux de mensuration des crânes au Japon. Donc ce n'est pas une exclusivité africaine. C'était une vision de domination par les puissances coloniales qui passait par la négation de l'égalité des races.
Mais pourquoi l'Allemagne n'a jamais voulu présenter ses excuses et encore moins même donner des réparations aux populations Herero et Nama de Namibie?
Malheureusement, c'est une tradition. La commission de génocide s'accompagne toujours avec le négationnisme. Ce n'est pas que l'Allemagne qui pratique son négationnisme à l'égard du génocide des Herero et des Nama. La Turquie ne veut pas reconnaître le génocide des Arméniens. Les États-Unis n'ont jamais reconnu le génocide des Amérindiens, exterminé par les cow-boys comme on le voit dans les films. Le gouvernement du Myanmar actuel ne veut pas reconnaître le génocide des musulmans rohingyas. Donc c'est une classique, malheureusement. Le génocide s'accompagne toujours avec du négationnisme. Et le négationnisme se traduit d'abord par ce refus de reconnaître les faits, mais aussi surtout par le refus de rendre justice aux victimes. C'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit partout, et c'est malheureusement une attitude très classique.
C'était l'expert Athanase Karayenda qui effectue actuellement un travail de recherche sur les génocides en Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires?
part et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens. C'est un Washington Forum spécial, jeudi à 19h30, en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
La première ministre britannique Theresa May est en tournée en Afrique. Dans le même temps, la chancelière allemande Angela Merkel fait son offensive commerciale dans l'espace CEDEAO. L'Afrique est en effet au cœur d'une bataille de positionnement et suscite l'intérêt des grandes puissances. Comment expliquer cette chasse croisée des investissements en Afrique ? Pour une réponse, Eric Maniragidza a joint à Dakar l'administrateur de programmes de gouvernance et d'avancement économique à Open Society Afrique de l'Ouest, Ibrahima Aïdara.
Je pense que ceci vient d'un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis et son approche singulière des relations multilatérales et le Brexit en UK et la Chine qui montre un intérêt particulier à l'Afrique mais aussi dans sa guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a comme une nécessité vitale pour les grandes puissances de se repositionner dans les centres du monde. Et l'Afrique devient dans ce contexte-là un enjeu pour ces puissances.
Le grand maître reste bien entendu la Chine, mais il y a les Américains, les Français, les Russes, l'Inde, la Turquie qui se bousculent aussi. Le gâteau africain va-t-il satisfaire tous ces appétits?
L'Afrique a toujours été une terre d'opportunité pour les marchés, mais aussi des matières premières. Ce qui est nouveau, c'est dans sa recomposition et le repositionnement de l'Afrique elle-même pour, disons, répondre à ces demandes qui sont par endroits agressives. Pour stratégiquement tirer profit de ces différentes demandes-là et voir là où elle a un avantage comparatif, là où elle peut gagner plus, la façon dont elle est agressivement sollicitée, ça va être difficile effectivement de satisfaire à le gâteau africain, comme vous le dites, disons, satisfaire à toutes ces demandes-là et de façon profitable pour elle-même. Vous avez parfaitement raison d'observer que, outre ces grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Inde, il y a de nouveaux appétits comme la Turquie, le Maroc, qui est dans l'Afrique, mais qui est assez agressif dans les relations intra-africaines.
Et tous ces investissements qui arrivent, est-ce que ça va réellement stopper le départ des jeunes Africains vers l'Occident? Il y a le drame méditerranéen qui ne s'arrête pas.
C'est une question stratégique d'importance qui doit être adressée avec beaucoup plus d'attention et de réflexion en matière de politique de développement global. Généralement, les investissements qui arrivent ne vont pas nécessairement dans les priorités de développement des économies africaines, mais plutôt dans la satisfaction des besoins des économies de qui y investissent. Il y a une incohérence, un paradoxe dans l'accroissement des investissements ou l'accroissement de la production intérieure brute et les flux migratoires dont vous mentionnez qui sont alimentés par la pauvreté, le désœuvrement et le chômage qui existent en masse dans nos pays africains. Donc c'est comme si, contrairement à la théorie économique, ici l'investissement ne crée pas du tout d'emplois.
C'était l'économiste sénégalais Ibrahima Aïdara.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Accra le week-end dernier pour le festival annuel Shale Wall Street, un mélange éclectique de graffiti, de musique, de mode et de spectacles contemporains destinés à réinventer l'Afrique. Salwa Jafari nous en dit plus.
Ébullition. Accra, comme vous ne l'avez jamais vu. Des milliers de festivaliers ont répondu présents. Ils ont dansé, joué, ému. Bref, c'était la fête dans la promiscuité et les organisateurs ne s'en plaignent pas.
Cette année, le thème de Chalet Wauté porte sur l'appartenance à un groupe, pas l'appartenance tout court. C'était vraiment amusant de passer de bons moments.
Plus de 100 artistes ont participé au festival. L'identité africaine est reine, bien sûr. On célèbre le renouveau. on est nostalgique, spirituel, un peu narcissique, et tout le monde s'amuse dans un bain de foule.
Chalet Water en 2017, c'était bien. En 2018, ça a été formidable. C'était fou. C'était mieux que l'an dernier pour les organisateurs. C'est une excellente plateforme pour les gens de montrer leur talent créatif.
L'événement qui a duré 7 jours comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti au festival de rue ouvert au public. Chalet Woté, qui signifie « Allez, on y va » dans la langue locale, veut rallier les Africains et le reste du monde, briser les frontières, tout en élevant Accra à la place qu'elle mérite dans le paysage artistique et culturel du continent.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'État de Floride, dans le sud des États-Unis, sera le théâtre de l'une des élections de gouverneurs les plus disputées en novembre. Et hier, les démocrates ont créé la surprise en choisissant un candidat de l'aile gauche du parti, Andrew Gillum. Et s'il est élu, il sera le premier noir à occuper le poste de gouverneur en Floride. Mais il lui faudra d'abord battre le républicain Ron DeSantis, un fervent partisan de Donald Trump. Pour Annalise Abdourahmandia, a joint Leonardo Villalon de l'Université de Floride.
Oui, effectivement, je crois que la Floride sera au mois de novembre un des États avec une des élections les plus contestées, les plus intéressantes dans un sens pour le futur de l'Amérique. Donc voilà, Andrew Gillum, effectivement, c'était un peu une surprise. Tout le monde donnait les avantages à Gwen Graham, qui est une ancienne représentante, puis d'un gouverneur, d'un sénateur très connu et très populaire dans son temps. Et Andrew Gillum, quand même, c'était une surprise assez importante.
Andrew Gillum est le premier noir à être un candidat d'un grand parti. Et quelles sont ses chances en novembre?
Écoutez, en fait, c'est très difficile à savoir. Évidemment, comme tout le monde vous le savez bien, le fait d'être noir dans un état du sud peut être un handicap dans un sens. En même temps, ça mobilise beaucoup. En ce moment, nous voyons que les minorités, les femmes, voilà, les démocrates en général, sont très mobilisés en ce moment pour les élections. Et donc, je crois qu'il ne faut pas exclure la possibilité qu'Andrew Gillum pourrait vraiment mobiliser une base très importante qui peut-être ne s'implique pas régulièrement en élection, mais qui serait très mobilisée par sa candidature.
Mais il va plus mobiliser dans la gauche. Est-ce que cela ne peut pas être un handicap pour le Parti démocrate pour essayer d'avoir les voix de ceux qui sont un peu au centre?
C'est très intéressant, c'est possible en fait, que ça soit un handicap, mais la situation en fait c'est la même chose dans l'autre sens chez les républicains, puisque les républicains aussi ont nominé Ron DeSantis, qui était il y a quelques mois pas du tout très bien connu, c'était tout le monde le favori, était un centriste républicain, bon, soi-disant centriste républicain, Adam Putnam, et donc... DeSantis aussi, en fait, a eu la nomination du côté avec le soutien du président Trump. Et donc, ce que nous voyons en Floride, c'est qu'en fait, les deux partis ont choisi des candidats dans les primaires qui sont plutôt vers l'extrême, de droite d'un côté et de gauche de l'autre, de leur propre parti. Et je crois que ça reflète une polarisation et au niveau national.
Oui, justement, vous venez de le dire, dans les deux partis, on a choisi les extrêmes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour la Floride? Vous disiez que c'est un peu un reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale, mais est-ce qu'on a l'habitude de voir une situation pareille en Floride?
Non, hein, c'est pas une situation normale en Floride, c'est-à-dire n'importe où aux États-Unis. Cette polarisation, la Floride, comme vous le savez sans doute, c'est un État très divisé, c'est-à-dire c'est un swing state, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est un État qui bascule, c'est à peu près 50-50%, démocrate républicain, il bascule d'un côté à l'autre assez facilement. Donc on s'attend que ça soit une bataille assez féroce.
C'était l'universitaire américain Leonardo Villalone pour terminer cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Sidrac Franklin, à la présentation Nathalie Barge. Restez en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous.